Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous nous retrouvons pour l'émission Les Échos de ma commune, aujourd'hui avec Madame Laure de la Rodière.
Bonjour Marie-Louise.
Au national, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs.
Il y a très peu d'ingénieurs. En fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de députés qui sont issus de formations littéraires ou sciences politiques, bien sûr, juridiques. Et on est très, très, très peu nombreux en tant qu'ingénieurs, je crois, moins d'une dizaine à l'Assemblée nationale. Très peu de profils scientifiques de façon générale.
De même, entrepreneurs, peu d'entrepreneurs.
Et peu d'entrepreneurs. Ça, on est moins de 10%, je crois, aussi anciens chefs d'entreprise ou qui viennent du milieu de l'entreprise. Parce que beaucoup des profils des députés sont soit fonctionnaires, soit profession libérale, finalement. Quelques agriculteurs, pas très nombreux non plus, et très peu de chefs d'entreprise.
Voilà, car vous cumulez d'être ingénieur, scientifique, entrepreneur et femme. Quelle est la moyenne de nombre de femmes à l'Assemblée ?
Je crois que nous sommes 25% de femmes députées. Et au sein du groupe Les Républicains, nous ne sommes que 15% de femmes députées au sein du groupe Les Républicains.
Voilà,
c'est tout à fait anormal, c'est tout à fait scandaleux. La loi de la parité s'applique désormais à tous les partis politiques, bien évidemment, et pour l'élection de 2017, ça sera avec des sanctions financières supplémentaires afin que les partis politiques se disciplinent d'abord pour investir autant de femmes que d'hommes. Alors tous les petits partis politiques le font. En revanche, l'EPS ou le groupe Les Républicains n'investissent de toute façon pas 50% de femmes dans dans les circonscriptions. Donc forcément, à l'arrivée, il y a moins de femmes. Et je crois que malheureusement, le parti politique auquel j'appartiens est le plus mauvais élève de la classe des partis politiques.
Bon, ça va changer, espérons, pour 2017 notamment.
En tout cas, les 15% de femmes députées Les Républicains ont bien l'intention de peser dans les décisions de la Commission nationale d'investiture pour qu'il y ait plus de femmes en pourcentage députés Les Républicains en 2017 qu'en 2012.
Bon, bravo alors. Alors, pour continuer un peu sur l'aspect bio, vous êtes eurélienne depuis fort longtemps, puisque vous
êtes originaire d'Eure-et-Loire. Ma famille est originaire d'Eure-et-Loire depuis très longtemps, de Digny précisément. Et moi, j'habite à plein temps en Eure-et-Loire depuis 20 ans. J'ai commencé ma carrière, comme beaucoup, à Paris, puisqu'il y a une offre d'emploi supérieure à Paris. Mais en 97, avec mon mari, on a décidé d'aménager à plein temps en Eure-et-Loire. C'est là où je suis devenue directeur de France Télécom en Eure-et-Loire.
Oui, alors cette fonction, justement, vous a permis quand même aussi de bien connaître l'ensemble de l'Eure-et-Loire, puisque vous étiez basée à Chartres.
J'étais basée à Chartres, j'avais des équipes à Dreux, à Nogent et à Châteaudun. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de déplacements sur le terrain, quelquefois pour aller voir des situations particulières sur le réseau télécom, notamment après la tempête de 99 qui avait mis à mal une grande partie du réseau de France Télécom, notamment dans le Perche, notamment plutôt dans l'ouest,
l'ouest
de l'Eure-et-Loire. Et là, je me suis beaucoup, beaucoup déplacée sur le terrain à ce moment-là. Donc, ce qui me permettait, avant d'être députée, de bien connaître sont de cette circonscription.
Et de bien connaître toutes les communes que nous essayons de valoriser dans cette émission, les écoles de ma commune.
Oui, les 97 communes de ma circonscription.
97. Voilà, vous avez 97 communes et, si, et j'ai retenu de votre blog que c'était aussi 97 000 habitants environ.
Exactement. C'est la taille moyenne d'une circonscription en France, c'est 100, 110 000 habitants. Donc c'est le nombre d'habitants de ma circonscription est représentatif d'une circonscription moyenne de France. En revanche, la circonscription est plutôt plus rurale que la moyenne des circonscriptions de France parce que j'ai beaucoup de collègues qui n'ont qu'une cinquantaine, 40, 50 villes. Et puis certains députés, en fait, sont députés avec une seule ville parce qu'ils ont 100 000 habitants qui est qu'une seule partie d'une grosse agglomération ou d'une grosse ville.
Oui, c'est ça. Et mais alors, en fait, vous étiez maire depuis quelle date? Parce que vous êtes députée depuis 2007.
Oui, mais je suis maire depuis 2012. Ah, quand j'ai été élue députée, j'étais conseillère municipale de mon village de Saint-Denis-des-Puits depuis 2001. J'étais conseillère municipale de ce petit village. Et vous savez, dans un conseil municipal d'une petite commune de 138 habitants comme Saint-Denis-des-Puits, il y a 11 conseillers municipaux. Donc c'est une très forte représentation démocratique, presque une démocratie presque directe finalement.
Absolument.
Parce qu'il y a un représentant presque de chaque famille. J'exagère un petit peu, mais on sent bien dans un village comme Saint-Denis-des-Puits que à la fois on connaît tous les habitants, c'est que ça fonctionne comme une grande famille, et finalement on prend une décision en allant voir directement les habitants pour leur poser la question de savoir ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui ferait là sur ces travaux. On va voir les gens concernés directement, et dans le conseil municipal on a des habitants qui représentent vraiment tous les hameaux, toutes les parties du village, et c'est un fonctionnement très démocratique qui est, enfin vraiment, c'est un mandat très intéressant et très plaisant à mener finalement.
Très bien. Alors en fait, votre mandat de député, vous l'avez gagné en 2007.
Oui.
Vous en êtes à votre deuxième mandat.
Oui.
Si vous vouliez nous résumer les points forts de votre circonscription, qu'est-ce que vous nous diriez?
Bah d'abord, j'ai la chance d'avoir une circonscription qui est à la fois de la ville et du rural,
oui,
avec deux types de ruralité. Donc, alors la première partie, c'est, si je commence par le nord de la circonscription, c'est la partie urbaine avec 35 000 habitants qui habitent Lucé, Mainville-et-Lèves, trois communes incluses historiquement dans l'agglomération de Chartres, avec des problématiques qui sont vraiment des problématiques citadines, avec quelques quartiers sensibles, avec un fort aspect multiculturel. Je crois qu'à Lucé, il y a une soixantaine de nationalités représentées.
Ah, tant
que ça. Oui, donc c'est voilà, donc spécial, donc tous les textes de loi qui vont toucher l'urbanisme, le milieu urbain, les problématiques de logement, tout ça, ça va toucher plutôt cette partie-là de la circonscription. Après, j'ai le canton d'Illier, ex-canton de Courville et d'Illier, qui sont dans le pays chartrain, avec une forte proximité de l'agglomération de Chartres, un fort dynamisme de population, beaucoup, en fait, un territoire rural, mais un territoire rural assez riche, perdant son identité dans l'ensemble de ce territoire pays chartrain. Donc je ne peux pas définir, avec tout l'apport de nouvelles populations qu'il y a eu dans ce territoire depuis les 20 dernières années, une identité particulière à ce territoire, si ce n'est
comprends.
La proximité de Chartres. Et puis, tout le reste de la circonscription, c'est-à-dire environ 35 000 habitants, le Perche, avec la très forte identité percheronne, l'amour qu'ont les habitants pour ce pays, vraiment rural, plus loin, Franche-Franciliaine, plus loin de Chartres, et finalement un territoire plus pauvre, mais extrêmement attirant, extrêmement séducteur aussi pour tous les touristes qui peuvent venir.
Tout à fait. Et alors, les points forts en termes économiques, qu'est-ce que vous voudriez relever et qui vous mobilise le plus dans votre rôle de député?
Les points forts d'un niveau économique, c'est d'abord on a la chance dans cette circonscription d'avoir une ville moteur qui est Chartres, qui réussit son développement économique, avec notamment un pôle de compétitivité qui est la Cosmetic Valley, qui est dynamique, qui est dans un secteur qui est en bonne santé, ce qui est quand même un atout pour notre territoire. La deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que on a sur nos gens le retrouvent, quelques entreprises pour la partie Percheron, donc quelques entreprises solides, que ça soit Bébron ou que ça soit Valeo, nos gens le retrouvent. Oui. Valeo, nos gens le retrouvent avait eu une passe un peu difficile en 2010-2011. Et aujourd'hui, avec l'intégration de nouvelles lignes de production, notamment de capteurs, vous savez, ces petits éléments qui se mettent dans tous les véhicules maintenant pour vous aider à la conduite, oui, avec à reculer, à mieux se garer et puis demain à conduire pour nous. Donc, ils ont intégré ces lignes de production pour tiers de l'Europe et ça, c'est en fort déploiement. Et donc, Valeo, dont j'en retrouve aussi, se porte bien. Donc, ça, c'est un atout. Maintenant, on a des difficultés aussi d'un point de vue économique, notamment sur le Perche avec le secteur de l'élevage qui a de grosses difficultés. Et puis, beaucoup de petites entreprises qui ont eu du mal à faire face à la crise parce que structurellement, elles n'avaient pas forcément les reins solides. J'espère que la situation économique va s'améliorer pour l'ensemble de ces petites entreprises. C'est bien d'avoir des grosses entreprises qui sont moteurs d'un territoire, mais en fait, on sait que la création nette d'emplois, elle se fait dans les PME. Et aujourd'hui, je dois avouer que le gouvernement actuel a un petit peu oublié la stratégie vis-à-vis de ces PME. C'est une faiblesse.
Oui. Surtout que, en plus, dans la partie ouest, donc le Perche de la circonscription, en fait, on a déjà beaucoup de mal à faire venir des PME et des entreprises.
C'est les acteurs du territoire. Dans la partie Est, il y a cet attrait de Chartres, la pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley, la visibilité que peut avoir Chartres, la proximité de Paris, qui fait que ça tire le tissu économique. Sur le Perche, c'est des acteurs locaux qui vont créer des entreprises. C'est pas forcément des gens qui viennent installer leur entreprise dans le Perche. Mais ces acteurs locaux, il y a du talent dans le Perche, bien évidemment. Mais il faut que la situation économique leur donne confiance pour investir et développer une activité. On a quand même, notamment dans le domaine du numérique, eu un très beau succès depuis 2012 avec la création de l'école numérique rurale de la Loupe, la Wild Code School, qui s'est bien implantée, qui réussit bien et qui a réussi à créer cet emploi et puis en plus qui amène un dynamisme sur le territoire et qui peut être cette figure petit peu moteur et mobilisateur avec des gens qui sont formés à la Loupe et puis
et
qui restent sur place
pour créer leur
entreprise. Nous d'organiser, je dirais, la disponibilité de locaux pour donner le pied à l'étrier. Au moment où on veut créer la boîte, il faut que ça soit facile de trouver des locaux pour la créer. Après, quand elle est sur les rails, l'entreprise déménagera, s'installera dans ses propres locaux. Mais finalement, cet espace d'accueil des entreprises qui a été fait à la Loupe par un porteur de projets privés en partenariat public-privé avec la mairie est une excellente chose. Oui. Il faudrait avoir la même chose, à mon avis, à Nogent-le-Rotrou, ça vaudrait le coup. C'est possible de regarder ça sur des locaux, par exemple, d'avoir un partenariat avec la SNCF, puisque je sais que dans la gare SNCF de Nogent-le-Rotrou, il y a des locaux disponibles. On pourrait très très bien imaginer aussi un espace de coworking. Un Fab Lab, c'est-à-dire un endroit où on peut fabriquer soi-même des choses, mais aussi un petit incubateur, en fait, qui permettrait l'accueil de ces entreprises. Oui. Concernant le Fab Lab, il y a une initiative nogentaise que j'ai été visiter, qui s'appelle la boîte à outils, qui est installée dans les anciens abattoirs, rue de la Bretonnerie, qui va inaugurer ses locaux et sa mise à disposition de machines pour que chaque Nogentais ou chaque personne qui veut bricoler lui-même ou fabriquer lui-même ses objets puisse le faire. C'est une excellente initiative.
Merci Madame de la Rodière pour ce point sur le dynamisme économique de la circonscription. Nous allons, chers auditeurs, marquer une pause. Je vous retrouve. À tout de suite. Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous nous retrouvons pour l'émission Les Échos de ma commune, aujourd'hui avec Madame Laure de la Rodière. Alors, nous parlions économie. Est-ce que vous pouvez également nous montrer quelle est la difficulté de la vie de député, parce que moi personnellement, je pense que c'est pas une vie de tout repos.
Alors c'est pas une vie de tout repos, c'est une vie passionnante. Donc je parlerai pas de difficulté en tant que telle, parce que c'est une vie très riche, passionnante, très chargée. Donc moi, mon organisation est la suivante. Le lundi, généralement, je suis à l'UC où j'ai une permanence et je vais avoir... En fait, finalement, je vais réunir mes réunions dans le nord de la circonscription, à l'UC, à Ailier, à Courville, les lundis.
Voilà.
Et aussi au département de Eure-et-Loir. Donc tout ce qui est tourné, je dirais, vers le nord de la circonscription et vers Chartres. Le mardi, mercredi et le jeudi, je suis à l'Assemblée nationale à la fois pour mes activités dans l'hémicycle, dans en travail de commission pour les examens de textes de loi, mais aussi pour tout le travail que je mène sur des missions qui me sont confiées soit par l'Assemblée nationale, soit à l'extérieur, sur des sujets donnés. En ce moment, pour donner un exemple, j'ai une mission d'information de la Commission d'affaires économiques de l'Assemblée nationale sur le développement des objets connectés. C'est à la fois une forte opportunité, les objets connectés, très gros marché en termes de croissance. On va passer de quelques dizaines de millions d'objets connectés aujourd'hui à plus de 20 milliards en 2020. Donc c'est demain, 2020, c'est dans 4 ans, on voit une progression monumentale. Donc c'est un secteur économique qui peut être en croissance pour la France. On est plutôt bien placé en France dans ce domaine des objets connectés. Maintenant, ça a aussi des impacts en matière de société. On va être connecté en permanence, encore plus qu'aujourd'hui, parce que on est déjà connecté en permanence avec nos smartphones demain, mais aujourd'hui, mais on va être connecté demain pour tous les instants, dans tous les instants de notre vie. Et quel impact ça en matière de société d'être tracé en permanence ainsi. Donc ce sont des sujets sur lesquels je travaille avec une collègue PS qui s'appelle Corinne Herrel, collègue PS députée des Côtes d'Armor, avec laquelle je réalise des missions d'information depuis que je suis à l'Assemblée nationale sur les enjeux du numérique.
Oui, vous avez...
Et les objets connectés font partie des enjeux du numérique. J'ai aussi une autre mission dans le cadre du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale. C'est une mission d'information sur l'innovation et la transformation de l'économie. Là, c'est de regarder comment les business models des secteurs d'activité les plus diverses sont transformés par l'innovation et par le numérique. On a vu, pour donner un exemple, la guerre des VTC, des taxis qui a fait la une des journaux et beaucoup d'embouteillages à Paris et en région parisienne et autour des aéroports l'hiver dernier. Mais il y a d'immenses secteurs qui sont bouleversés par le numérique. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Mais demain, ça pourrait être aussi les politiques publiques qui vont être ubérisées. Prenons un exemple avec la santé. Quand vous avez l'ensemble des outils de mesure de la pression, du rythme cardiaque, du fait qu'on peut prendre la température, tout ça connecté permet en fait de réaliser des diagnostics de santé à distance. Si vous rajoutez le fait qu'avec l'ensemble des données que vous récupérez, des analyses massives de données ainsi que l'utilisation de programmes informatiques à base d'algorithmes d'intelligence artificielle, tout ça me conduit à penser que le premier diagnostic demain, ça sera peut-être l'infirmière, ça sera peut-être le pharmacien et non plus le médecin. Et ça sera fait à distance et peut-être plus par la même personne. Ce qui peut d'ailleurs être une réponse en soi à la désertification médicale. Voilà, exactement. Mais il faut aussi qu'on prévienne les médecins on a besoin d'eux toujours. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'eux au deuxième diagnostic si le premier n'a pas été suffisamment pertinent. Mais c'est peu différent de ce qui arrive quelquefois aujourd'hui. Et quelquefois, vous allez chez le médecin et puis au bout de 3 jours, vous allez le revoir parce que le premier médicament qu'il vous a prescrit n'est pas le bon. Donc finalement, je suis pas sûre que pour les patients, ça change grand-chose. En revanche, dans l'organisation du parcours de soins, c'est fondamentalement différent.
Tout à fait.
Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels je travaille à l'Assemblée nationale, parce que notre rôle aussi en tant que député, c'est de porter une vision des changements de société et puis de prévenir les Français de la façon dont ça va se passer et comment ça peut résoudre certaines problématiques qui existent dans notre société. Pour faire ça, j'ai lancé une plateforme de débat qui s'appelle Numérique 2017 pour que puisse être portée dans la campagne de l'élection présidentielle de 2017 ces enjeux de transformation de la société, qu'amène le numérique.
Alors,
j'ai très peur, en fait. Numérique2017.fr, l'adresse
web,
tout simplement.
Numérique2017.fr.
Il y a un Facebook, Numérique2017. Et puis, une adresse Twitter aussi, qui est @numérique2017. Il me paraît, en fait, essentiel que, dans le cadre de cette grande élection de l'année prochaine, dans laquelle on puisse débattre avec les Français des changements
de
politiques publiques qui vont avoir lieu entre 2017 et 2022. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir un rejet de la population parce qu'on n'aura pas fait la pédagogie nécessaire, parce qu'on n'aura pas préparé les acteurs à ces grands changements qui vont avoir lieu.
Et j'ai noté que pour les jeunes, vous militez pour l'introduction de l'enseignement
du code
numérique à l'école.
Oui, de façon absolument nécessaire. Alors, ça va être fait à partir de septembre dans la réforme du collège à une dose minimale. Moi, j'étais un petit peu plus radicale en disant transformons le cours de technologie qui a lieu de 6e à la 3e en cours de code. Le code, c'est comme une langue étrangère, mais c'est la langue étrangère que vont utiliser tous les outils qu'on aura demain et qui feront partie de notre vie. Et donc, il faut apprendre et il faut savoir comment c'est construit, comment c'est fabriqué. Et puis, la deuxième chose qui est extrêmement important, c'est que on puisse montrer aux élèves que c'est intéressant de coder,
c'est
une bonne agilité intellectuelle, que certains d'entre eux qui sont pas très bons en classe peuvent devenir très bons en code et qu'on en a besoin dans les métiers de demain. Donc
c'est aussi
préparer l'avenir à la fois pour que chacun maîtrise un petit peu cette langue étrangère qui va être le code de tous nos outils. Et puis, deuxièmement, qu'on puisse orienter des jeunes rapidement vers ces métiers de développeurs. On a la chance en France d'avoir des très bons développeurs. C'est reconnu dans le monde entier. Appuyons-nous sur cette force pour faire réussir la France, pour réussir l'équipe de France à l'ère du numérique.
Tout à fait. Et puis, en fait, il faut voir qu'au-delà des métiers de développeurs, dans tous les autres métiers, on a besoin maintenant de développer.
Exactement.
Et en plus de son métier de base, quoi.
Donc voilà, et c'est pour ça que depuis 2007, moi, je me suis investie sur les enjeux du numérique à l'Assemblée nationale et que j'en fais la pédagogie sur le territoire très régulièrement. Ce que je vois de très intéressant aujourd'hui, c'est que le Perche a été sensible à ces messages-là et finalement la feuille de route qu'a le Perche aujourd'hui, le Pays Perche aujourd'hui, alors ça s'appelle PETR, mais c'est le Pays Perche qui porte finalement une ambition résolument numérique. Je vois des initiatives dans plein de communes et dans plein d'endroits de chantiers sur le numérique. Alors, il y a la White Cold School, bien sûr, à la loupe, mais il y a aussi la mutinerie village et l'espace de coworking avec un Fab Lab à Saint-Victor-de-Buton. Il y a le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire du Perche qui sera fini d'ici 2019-2020. Il y a aussi le lycée Nermo qui a un projet pour faire la pédagogie de l'usage des tablettes auprès des personnes âgées, à la fois pour rompre l'isolement, mais pour faciliter aussi le dialogue intergénérationnel. Et l'ambition de la directrice du lycée Nermont de Nogent-le-Rotrou, c'est de monter progressivement un campus finalement autour des soins aux personnes âgées numériques, comment on intègre le numérique dans la formation des jeunes pour après pouvoir avoir un maintien à domicile facilité par des usages du numérique. Je vois que tout ça est en train de plein d'initiatives sont en train de foisonner Et je suis heureuse de ça parce que j'ai l'impression au moins
d'avoir fait quelque chose.
Alors, j'ai fait quelque chose et en même temps, j'aime ce territoire et donc je vois qu'il se tourne vers l'avenir et c'est extrêmement satisfaisant.
Voilà, vous y êtes certainement pour quelque chose. Donc, nous avons vu votre implication, notamment sur le numérique, aussi bien à l'Assemblée qu'au plan local. Et terminez-nous un petit peu votre emploi du temps, de la semaine après le mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
À nos gens le retrouvent, vous avez raison, lundi à l'UC, mardi, mercredi, jeudi, globalement à Paris, à l'Assemblée nationale et dans mes engagements nationaux. Et le vendredi, je suis à nos gens le retrouvent, j'ai une permanence aussi. Et puis le samedi et dimanche, je suis sur l'ensemble de la circonscription, alors à certaines assemblées générales d'associations, à certaines inaugurations dans des communes, ou aussi à remettre une coupe à une manifestation diverse et variée organisée par le territoire.
Tous ces événements vous permettent de remonter, d'avoir
les
préoccupations sur le terrain.
C'est essentiel que les députés soient beaucoup sur le terrain. C'est pas uniquement pour se faire voir, comme j'entends parfois, qu'ils sont contents de serrer des mains. Bien sûr, de toute façon, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire de la politique si on n'aime pas les gens. Mais aussi, ça permet de rencontrer les gens et de savoir ce qu'ils pensent à la fois de la politique nationale, mais aussi du fonctionnement local, de ce qu'ils attendent.
Et de remonter les sujets pour de
nouvelles
lois.
De préoccupations, tout à fait. Tout à fait. C'est le rôle du député, c'est bien aussi d'être proche des gens pour pouvoir savoir ce qu'ils pensent des lois qu'on a votées, mais aussi d'écouter leurs suggestions pour les lois à venir.
Et nous pouvons revoir sur votre site web qu'il y a de nombreuses propositions que vous avez faites pour des projets de loi grâce à ce contact terrain que vous entretenez et qui vous vaut de faire un certain nombre de kilomètres par an.
Ah, la circonscription est grande hein, parce qu'elle fait 80 km de long, 45-50 de large. Donc oui, je fais 35 000 km par an et encore je vais à Paris en train. Donc je compte pas les allers-retours que je fais chaque semaine en train.
Bon, écoutez, Madame de la Rodière, encore bravo pour tout cet exemple que vous constituez comme députée dans notre Assemblée nationale, déjà parce que vous êtes une femme. Et donc, merci beaucoup de votre présentation aujourd'hui pour les auditeurs de Radio Grand Ciel, que nous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission, émission sponsorisée par le Conseil Général d'Eure-et-Loir. À très bientôt. Au revoir,
Madame. Au revoir, Madame. Merci, Marie-Louise Tran.